Monsieur Descaries, bonjour.
Bonjour.
La COVID longue est quelque chose avec laquelle nous allons apprendre à vivre comme société, mais que nous connaissons encore très peu. Qu'est-ce
C'est
qui
exact.
vous a amené à vous y intéresser et qu'est-ce que vous avez découvert jusqu'à maintenant?
En fait, nous, à l'Université de Sherbrooke, on a commencé à travailler sur la réadaptation de la COVID là, dès le début. Donc, au début, là, il y a 2 ans, on savait qu'il y avait des longues hospitalisations. Donc, on savait que la réadaptation là, pouvait aider les personnes qui avaient eu une hospitalisation. En fait, on avait l'hypothèse qu'on pouvait les aider là, avec la réadaptation pulmonaire. C'est comme ça qu'on a commencé. On a fait des études pilotes au CIUS de l'Estrichu. Avec des résultats intéressants là, pour aider les patients. Et donc, en fait, rapidement dans l'histoire, les patients, les gens à l'international, ceux qui n'avaient pas été hospitalisés, ont commencé à dire, écoutez, on a des impacts sur notre vie, des séquelles, même si on n'a pas été hospitalisé. Et donc, au cours de l'été, de la première été de la COVID, on a décidé d'essayer d'aider ces gens-là. Et on a découvert beaucoup de choses qui nous ont marqués. En fait, par exemple, une des premières choses qui a été découverte, c'est que les personnes qui ont des séquelles de la COVID, mais qui n'ont pas été hospitalisées, souvent, ils vont avoir en fait une contre-indication à des programmes comme des programmes d'exercice parce qu'ils ont des symptômes particuliers comme le malaise post-effort. Et donc, du moment où est-ce qu'on a découvert ces symptômes-là, ces profils-là qui étaient différents, on s'est lancé là, dans des grandes initiatives de recherche pour mieux comprendre comment supporter ces gens-là dans leur processus de récupération.
Parce que la récupération ne ressemblait pas à la récupération, je dirais, habituelle de quelqu'un qui a eu une infection pulmonaire. Il y avait d'autres choses qui se manifestaient. Et c'est ça dès le départ, je dirais, différenciait la COVID longue d'une réadaptation d'un autre type d'infection pulmonaire.
C'est exact. En fait, là, aujourd'hui, là, un an plus tard, on a des grandes initiatives internationales qui s'y sont attardées. Et le cadre de référence pour le suivi du patient, des personnes qui ont la COVID longue n'est pas du tout le même qu'un processus de réadaptation habituel. En fait, c'est même contre-productif. Plus on essaye, on ne doit pas essayer d'accélérer la récupération de la COVID longue. Ça, c'est la grande compréhension de la première année de recherche sur cette maladie-là, si on essaye d'accélérer la récupération, c'est contre-productif pour le patient, puis ça peut même lui causer là, des dommages à ces personnes. Donc, on a été supporté par d'autres communautés de patients, là, les patients qui ont une maladie qu'on appelle l'encéphalomyélite myalgique, connue autrefois sous le nom de syndrome fatigue chronique. Ces personnes-là, dans 80% des cas et plus, c'est une infection post-infectieuse ou post-virale. Donc, ces personnes-là avaient un bagage scientifique de plusieurs décennies et ils nous ont guidés assez rapidement pour dire ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et ça a un meilleur potentiel d'être sécuritaire. Donc, en fait, ce qu'on fait en réadaptation, on n'essaie pas d'accélérer la récupération, mais on sécurise. On aide à diminuer l'intensité, les rechutes des symptômes, parce que c'est une maladie qui cause énormément de rechutes au niveau des différents symptômes médicaux. Et donc, on essaye plutôt de stabiliser les symptômes de la personne pour que la récupération naturelle se fasse de façon naturelle. Donc, c'est une autre façon de penser pour aider à supporter ces personnes-là.
On ne peut pas aller plus vite que ce que le corps va être capable de faire comme récupération. Alors, il s'agit beaucoup d'éviter, en fait, de penser que l'on va mieux et là, à ce moment-là, s'épuiser, puis on se retrouve à nouveau alité.
C'est exact. C'est le paradigme de suivi pour ces personnes-là.
Si vous voulez bien, on va revenir un petit peu en arrière. Quelle est la prévalence de la COVID longue? Évidemment, c'est sûr qu'on parle d'un phénomène qui est très récent en termes d'occurrence médicale. Là, les données que vous avez changent, je suppose, presque au mois. Mais est-ce qu'on a une idée un peu de la prévalence?
Les données changent même presque au jour. Je vous dirais, en ce moment, c'est très dynamique. Les données de prévalence il y a beaucoup de chiffres avec beaucoup de devis.
Et beaucoup de définitions, je suppose, aussi.
Oui, exactement. Mais en termes de définition, là, ça, c'est quelque chose qui s'est stabilisé là, depuis octobre 2021. L'OMS a proposé une définition de cas. Ce n'est pas une définition diagnostique, mais c'est une définition de cas. Et donc, la première définition, c'était des symptômes persistants plus de 4 semaines. Maintenant, l'OMS a décidé de repousser ça à 12 semaines. Donc, vraiment, pour établir la condition, on fait un suivi à partir de la 4e semaine, mais on attend vraiment la 12e semaine de persistance pour établir plus clairement le cas. Fait que pour répondre à votre question sur la prévalence dans ces nouvelles définitions-là, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Ce qui semble stable dans les données probantes, donc on a regardé, il y a eu beaucoup de revues systématiques, de méta-analyses qui ont été faites. Il y en a une qui est tenue à jour justement par l'Agence de santé publique du Canada. Ce qu'on peut affirmer avec plus de certitude aujourd'hui, c'est le seuil plancher. Donc, il y a très peu d'études de prévalence qui parlent d'un taux en bas de 10 %.
Okay.
Donc, sur cette base-là, on parle de 10 % des gens qui ont eu une infection qui pourraient développer des symptômes persistants à plus de 12 semaines. Et là, on a un large éventail. Là. Par exemple, si vous avez été hospitalisé, les gens hospitalisés, ça, on le sait, de très grandes cohortes internationales depuis presque un an et demi, que vous avez une chance sur deux que ça prenne plus qu'un an à récupérer pour les patients hospitalisés.
Donc, le degré de gravité au moment de l'infection initiale va augmenter les probabilités de se retrouver avec des symptômes à long terme.
C'est pas tant le degré de gravité que vraiment la différence entre une personne qui était hospitalisée ou non hospitalisée. Fait que oui, on peut le penser comme degré, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau du profil de l'infection qui expliquerait ça, parce qu'une personne qui n'est pas allée à l'hôpital, qui a une infection sévère, mais qui n'est pas allée à l'hôpital, va avoir un profil différent.
Oh.
Et on peut avoir une COVID longue sur une infection légère à la maison. Vous voyez, toutes les options sont possibles et peuvent nous amener à la COVID longue. Donc, pour répondre à votre question, la prévalence actuellement, la façon qu'on le calcule, le seuil plancher est à 10 %. Donc, on s'attend à moins que 10 % des cas aient des symptômes persistants qui peuvent leur causer un impact fonctionnel à 12 semaines. Maintenant, après ça, ça varie. Là, vous avez la semaine passée l'étude de l'INSPQ qui est sortie chez les professionnels de la santé au Québec et eux étaient à 40 %. Donc, 40 % des professionnels de la santé qui avaient une infection symptomatique avaient des symptômes persistants là, à 12 semaines. Encore là aussi, il faut rajouter que cette cohorte-là, c'était à un moment où elle n'avait pas encore de vaccination. Donc là, les nouvelles données, on sait ce qui s'accumule là, depuis les dernières semaines, c'est un effet protecteur contre la COVID longue de la vaccination. Ou si vous avez des symptômes persistants, la vaccination semble aussi diminuer là, la persistance en termes de durée. Par contre, encore là, il n'y a pas de chiffres qui ont vraiment sorti en haut de 50 % de protection. Donc, ce que ça veut dire globalement, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a moins de risques de développer de la COVID longue qu'il y en avait dans les premières vagues, mais on sait que ça peut passer par-dessus la vaccination. Donc, d'où l'importance d'avoir multi-mesures de protection.
C'est presque essayer d'attraper l'air du temps. La définition de la maladie, la manifestation des symptômes, la corrélation ou la causation, tout ça est encore... C'est multiple et c'est difficile de mettre le doigt dessus. Est-ce qu'il y a des cohortes, est-ce qu'il y a des groupes démographiques? J'ai entendu dire que les femmes étaient plus souvent affectées par ça. Est-ce que ça a un rapport simplement par leur emploi dans le milieu hospitalier?
En fait, je ne crois pas. Au départ, donc le ratio est à peu près de 80 %. Donc les cohortes, 80 % sont des femmes. Des cohortes de COVID longue. Au début, on pensait qu'il y avait peut-être des biais de sélection là, dans les études, mais finalement, ça s'est accumulé et c'est resté assez stable. Si vous comparez ça avec d'autres maladies post-infectieuses comme l'encéphalomyélite myalgique, c'est la même chose. Donc, les maladies post-infectieuses, dans les grande cohorte, on est à peu près à 80 % de femmes. Donc, si on regarde ça en comparaison avec d'autres maladies qui ne sont pas nécessairement associées à être professionnelles de la santé ou pas, ça nous pousse vers un rationnel biologique qui serait différent là, en réponse à D'accord. l'infection. Donc, c'est là qu'on en est.
Et on parle de gens qui sont souvent dans la fleur de l'âge, là, qui n'ont pas de problèmes de santé préalables.
Exactement. Donc, on parle principalement de des personnes entre 30 et 60 ans qui sont atteintes, qui avaient ou pas des comorbidités. Encore là, ici, on a différents profils là, sous le parapluie de la COVID longue. Là. Donc, une personne qui était hospitalisée, souvent, sont un peu plus âgées ou avaient des comorbidités. Donc, on peut retrouver de tout. Mais ce qui est inquiétant, c'est par exemple une jeune femme de 30-35 ans qui n'avait aucun antécédent et là qui se retrouve avec la COVID longue, qui est une maladie invalidante. Donc, on en a beaucoup là, qui sont dans...
On parle, si je peux me permettre, en faisant rapidement une mathématique, si c'est une personne sur 10 avec le nombre de cas qui ont été identifiés au Canada, une personne sur 10, on parle de, littéralement de dizaines de milliers de personnes au Canada, enfin, ou presque 170 ou pas loin de 200 000 personnes au Canada et là-dessus, des dizaines de milliers au Québec. C'est toute une population fragilisée avec lesquelles on doit, en fait, je dirais, composer, mais on ne sait pas exactement encore comment y arriver.
Exactement. En fait, tu sais, là, il y a certaines extrapolations qui ont été faites, là, par exemple... Quand la santé publique nous a sorti les chiffres de 2 millions, le chiffre de 10 % c'est des gens qui étaient symptomatiques et qui ont eu un test PCR. Donc là, on fait pas l'estimation de 10 % c'est pas sur des cas asymptomatiques, là, juste pour bien le cadrer. Donc oui, on fait nos estimés avec ce qu'on avait comme données avec les tests PCR des centres de dépistage. Donc oui, on est dans une estimation de 150 à 200 000 au niveau canadien, puis à peu près 40 000 qui l'ont eu ou qui l'ont encore au niveau du Québec. Donc là, nous, en tant qu'équipe de recherche, depuis presque un an, on travaille sur le modèle de soins. Donc on sait que ces personnes-là arrivent plus rapidement, qu'on est capable de développer des essais cliniques randomisés. Donc là, il faut développer un modèle de soins un peu... En absence là, de données probantes fortes. Mais c'est un défi parce que, dans le fond, c'est des gens qui ont des besoins. Au début, on pensait qu'on serait capable de s'en sortir avec des interventions réadaptation simples, appelons ça comme ça, de l'autogestion. Nos données au Québec nous montrent que plusieurs de ces patients-là sont en fait des processus de réadaptation complexes. Donc là, c'est un défi d'organisation parce que à la base, au Québec, en termes d'organisation de la réadaptation, il y avait des délais pour plusieurs maladies. Il y avait des listes d'attente de ça, ça a été connu là, en 2018-2019, des listes d'attente de 18 000, 20 000 personnes pour des services de réadaptation dans le système public. Donc, ces gens-là, en fait, s'accumulent sur des retards là, en termes
qui,
de...
Qui existaient déjà, oui.
Qui existait déjà, exact.
Et les symptômes ont toutes sortes de formes. On parle, parce que là, on parle plus de fièvre parce que l'infection initiale est passée, mais on parle de myalgie, de maux de tête, de confusion, d'acouphènes, de douleurs chroniques. On parle. Est-ce qu'on a des gens qui sont arrivés au bout du processus? Est-ce que les premières personnes qui ont été infectées au printemps 2020 qui se sont retrouvés avec une forme de COVID longue. Est-ce qu'il semble y avoir une fin à ce cycle-là ou il y a des gens qui composent avec une telle situation depuis presque 2 ans?
C'est possible. Là, on parle de données ultra pointues, là, mais si on le résume de la façon suivante, on sait qu'il est possible de récupérer de façon naturelle la COVID longue. Par contre, la majorité des résolutions naturelles se font dans les 8 semaines après la 4e semaine, en 4 et 12. Une fois qu'on atteint le 12 semaines de symptômes persistants, là, on voit un aplatissement de la courbe de récupération. Donc, ça prend à partir de là 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois et plus. Dans cette cet intervalle de temps-là, graduellement, il y a plusieurs personnes qui vont résoudre de façon naturelle. Par contre, on sait qu'on a des gens aussi actuellement qui font face à des impacts permanents. Donc, on a des gens de 24 mois qui n'ont pas récupéré de ça. Et ça, c'était attendu. Là, quand on regarde la littérature sur les maladies post-infectieuses en général, on s'attend à ce qu'une récupération naturelle prenne jusqu'à 2 ans. Et après ça, on s'attend qu'à peu près 20 % des personnes qui sont en récupération font faire face à des séquelles permanentes.
Ils vont, oui.
C'est là où est-ce qu'on en est actuellement. Là, c'est selon, avec les gens qui sont à 2 ans, avant 2 ans, il y a encore de la probabilité. Là, à 2 ans, il faut commencer à mettre en place des mécanismes différents là, pour supporter ces personnes-là.
Est-ce que le système maintenant commence à développer des mécanismes pour être capable de les identifier? Parce que on parle d'un grand bassin de personnes qui ont été infectées. Après ça, des gens qui se retrouvent avec des séquelles, s'il ou elle s'adresse au système de santé, est-ce qu'on va être rapidement capable d'identifier que oui, ce que vous avez s'apparente au syndrome de la COVID longue?
On travaille le plus rapidement possible pour ça, mais le défi, c'est réussir à former littéralement des milliers de professionnels de la santé d'un seul coup. Et en termes de développement professionnel, un défi
énorme,
un défi extrêmement difficile. Ce n'est pas juste question que je fais un webinaire d'une heure puis que je dis c'est quoi les critères.
C'est autre chose.
C'est une maladie complexe. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on a réussi à bien déployer dans la première année, c'est les critères de sécurité. Donc, pour être sûr que les professionnels, quand ils commencent la prise en charge, ils vont pas avec des approches contre-indiquées. Ça, c'est quelque chose qui s'est quand même très bien répandu. Maintenant, là, après ça, on commence à travailler beaucoup avec les médecins de famille, les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne pour qu'ils soient capables de plus rapidement identifier. Mais c'est difficile parce qu'en même temps, j'ai pas tant de données probantes. Tu sais, j'ai une définition d'OMS, c'est bien, mais j'ai pas beaucoup de données probantes sur quel test diagnostique je devrais faire. Donc, il y a beaucoup de jugements cliniques. C'est pour ça que c'est pas juste une formation d'une heure qui fait
c'est beaucoup travail. Plus. Monsieur Descaries, je vous remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Les derniers mots que vous avez dit, c'est beaucoup de travail et c'est difficile. Et on peut craindre que ça va être beaucoup de travail et que ça va être difficile encore pour un long bout de chemin. Merci beaucoup de vous être attelé à cette tâche. Là, vous êtes en première ligne de ce qui semble être une guerre d'usure. Merci beaucoup, Monsieur Descaries.
On est là pour les personnes. Merci beaucoup.